With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut les fous du volant, bienvenue dans votre émission consacrée à l'actualité de la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur le Grand Prix de Styrie, 8e étape du championnat du monde de Formule 1. Ça va Stéphane, en forme ?
Oui, en forme selon la formule consacrée. Et toi Gilles ?
Impeccable, en grande forme même. On va revenir justement sur ce Grand Prix de Styrie, remporté haut la main par Max Verstappen, en cherchant à comprendre finalement où se niche désormais la performance de la Red Bull. On parlera également de Mercedes, battu pour la 4e fois de suite. On entre dans une zone que le constructeur allemand n'a plus connue depuis son retour en Formule 1. Les regards de l'équipe Mercedes se sont-ils tournés trop tôt vers 2022 ? C'est en gros ce que l'on va tenter de définir. Et puis Charles Leclerc, aspirant Top Gun. On sait que le Monégasque est l'un des pilotes les plus talentueux du plateau, auteur à Spielberg d'une remontée exceptionnelle, mais dont il aurait pu se passer sans un début de course un petit peu brouillon. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, et puis aussi à vous abonner, comme ça, lors de l'apparition du prochain épisode, eh bien, ça arrivera directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec, bien sûr, ce Grand Prix de Styrie, un Max Verstappen dans la zone. Cette fois, pas de problème au départ comme ça avait été le cas au Castellet. Une copie parfaite de la part du Néerlandais. 4e victoire hein, pour lui en 5 courses. Et on rappelle que l'épreuve qu'il n'a pas remportée, il était en tête au moment où son pneumatique a explosé. C'était à Bakou, la 3e fois en 9 épreuves qu'il mène une course de bout en bout, alors qu'il ne l'avait fait jusque-là qu'une seule fois sur l'ensemble de sa carrière. Stéphane, c'est presque ce que les anglo-saxons appellent une clean sheet, en fait.
Une masterclass, comme a dit Chris Horner, qui n'avait pas pu employer cette expression au Grand Prix de France parce que Verstappen avait raté son départ. C'était là le petit défaut de sa course. Et Red Bull s'est d'ailleurs aussi permis d'en rajouter une petite couche sur le plan de la petite guerre des mots et de la communication médiatique, en envoyant un tweet, le même que Red Bull l'année dernière, en disant ce qu'on peut dire, c'est que que l'année dernière, Mercedes avait dit l'année dernière, ce qu'on peut dire, c'est qu'on adore venir au Red Bull. Eh bien, Red Bull a envoyé exactement le même message avec une photo quasiment comparable. Mais il y a une petite chose qui n'a pas plu quand même à l'arrivée à Michael Massi, le directeur de course, c'est que Verstappen a pilé sur la ligne. Et ça, c'était un petit peu dangereux avec les pilotes qui arrivaient quand même potentiellement derrière, même s'il avait beaucoup d'avance sur Hamilton. Et Michael Massi a dit là, il ne faut pas recommencer parce que la prochaine fois, ça sera une sanction, réprimande, peut-être perdre 2 points sur la super licence et plus.
Ouais, ça, c'est un tout petit peu dommage, honnêtement, si un pilote ne peut pas célébrer. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de public, mais alors, je te dis ça et en même temps, j'ai le souvenir d'avoir moi-même commenté un accident exceptionnel. Et d'ailleurs, je pense que c'était à Spielberg même avec un pilote qui s'était arrêté sur la ligne d'arrivée et un autre qui n'avait pas vu parce qu'il y en avait deux autres qui étaient en train de se bagarrer pour une place à l'arrivée. Et ça avait fait un tremplin monumental. Je me demande s'il n'y avait pas un Latifi qui avait été d'ailleurs impliqué en tant que victime dans cet accrochage. Donc à la fois, c'est dommage d'empêcher les pilotes de faire le spectacle et de célébrer. En même temps, il faut essayer de le faire à des endroits où c'est un petit peu moins exposé, c'est sûr, qu'une ligne d'arrivée. J'évoquais les statistiques, Stéphane. Une série de 4 victoires consécutives pour Red Bull. Alors, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises depuis la création de cette équipe en 2005. En revanche, avec les deux pilotes qui se relayent, hein, il y a eu 3 victoires pour Verstappen et une pour Perez, et bien ça c'est une première pour l'équipe dirigée par Christian Horner, puisque donc Sergio Perez, lui, a amené une victoire dans la série du côté de Bakou. Ça en dit long hein, quand même sur le niveau atteint en ce moment par Red Bull.
Il y a un autre chiffre qui parle, c'est Verstappen a encore mené de bout en bout pour la troisième fois depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2020. Et donc, ça fait trois fois maintenant, puisqu'il avait fait aussi à Monaco. Et personne n'a fait ça, en fait, même une fois depuis Abu Dhabi. Ça veut dire qu'il ne gagne plus, il domine vraiment. Et puis, ce qui est amusant aussi, c'est qu'il est un petit peu jeune, mais il commence à avoir des records de vieux. C'est-à-dire qu'il a égalé les trois victoires d'Alain Prost à Spielberg. Donc, ça aussi, c'est pas mal. On voit qu'il avance un petit peu progressivement sur le terrain aussi des statistiques. Il commence à marquer son territoire.
Alain Prost appréciera cette expression record de
d'ancien,
vieux.
D'ancien, on va dire. Voilà. C'est le terme est peut-être meilleur.
Exactement. Alors, évidemment, techniquement, la Red Bull a encore progressé. On voit quand même pas mal de petites phrases hein, sortir, alors tantôt de Toto Wolff, tantôt de Lewis Hamilton, qui remettent un petit peu en cause, on va dire, le respect de toutes les règles de la part de Red Bull. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Stéphane? Est-ce que tu as rassemblé un petit peu l'ensemble des éléments?
Ce qui fait polémique un petit peu depuis l'introduction du Honda en Grand Prix de France, c'est la puissance du moteur. Et Wolff s'est interrogé ouvertement en disant mais ils ont quand même plus de puissance. Et Hamilton aussi dit je ne sais pas où est-ce qu'il la trouve, cette puissance. Et j'ai retrouvé en fait une déclaration de Masashi Yamamoto, qui est directeur du programme F1 de Honda, juste avant le Castellet. Honda introduisait sa deuxième salve, je dirais, de moteurs neufs. Ils ont droit à trois moteurs en tout par pilote et par saison. Et il l'expliquait de la façon suivante. C'est un moteur tout nouveau et il va falloir qu'on écoute attentivement le feedback des pilotes pour savoir si ce moteur est bien calibré. Ça veut presque tout dire. Il y avait quelque chose, non pas de neuf, mais de nouveau là-dedans. Alors, est-ce que c'était une optimisation du fonctionnement du moteur, puisque il est interdit de faire évoluer les moteurs, à part apporter des modifications, des corrections pour résoudre un problème ou un bug, quelque chose comme ça. Alors, les équipes essayent aussi de faire ça, et en même temps, augmenter quand même d'une autre façon la puissance au passage, voilà. Mais théoriquement, c'est interdit. Et Honda, en fait, mettait en place un moteur qu'ils ont appelé e-technology. C'est un label, en fait, industriel au Japon d'une nouvelle gamme qui va sortir de haute performance d'électrification des moteurs. Donc, il y avait quand même quelque chose de nouveau. Alors, la polémique a été un petit peu éteinte par Mattia Binotto, le boss de Ferrari, qui a dit: on a bien regardé les data GPS. Je peux vous assurer une chose, c'est que le moteur n'a pas connu un step en termes de puissance. En fait, ils ont eu des petits problèmes chez Honda en début de saison. Ils ont un petit peu dégonflé le moteur. Ça s'est moins vu. Et puis, au Castellet, ils ont remis la puissance nominale normale. Et c'est là qu'on a l'impression qu'ils ont fait un step en avant.
Ah, c'est étonnant de voir finalement Mattia Binotto, le patron de la Scuderia Ferrari, venir en quelque sorte à la défense de Red Bull, en gros pour dire qu'il n'y a pas d'affaire sur les moteurs. On a aussi parlé d'aileron ces dernières semaines, hein, avec ces nouveaux contrôles mis en place et qui visaient assez spécifiquement la firme autrichienne. On n'a pas l'impression que ça ait endigué, c'est le moins qu'on puisse dire, les progrès et la marche en avant des Red Bull.
On l'avait vu, Gilles, on en avait parlé ensemble. L'aileron quand même penchait, l'aileron de la Red Bull à Montmélo. Là maintenant, c'est un partout en fait entre Red Bull et Mercedes. Il y en a un qui dit range ton aileron arrière flexible et l'autre qui lui répond oui, bah, range ton aileron avant flexible. Donc on en est revenu à des bases normales. Il y a encore une petite tolérance pour le Grand Prix d'Autriche ce week-end et normalement après, ça sera tolérance zéro à partir du Grand Prix à Silverstone.
Exactement, la Grande-Bretagne. Et puis il y a un des autres aspects sur lesquels on est en train de retrouver la grande équipe Red Bull, hein, celle de la grande époque, Stéphane, c'est du côté des arrêts au stand sur lesquels tu voulais t'attarder, parce que c'est assez symbolique aussi du retour vraiment au top niveau de la firme autrichienne.
Ben, ça a fait le débat à Spielberg quand même pendant 3-4 jours. Mercedes est parvenue par une question pas vraiment innocente aux techniciens de la FIA en disant est-ce que notre système est conforme et est-ce qu'il resterait conforme en le faisant évoluer de cette façon-là, c'est-à-dire à la façon Red Bull. Et la FIA a dit ah attendez, non là c'est interdit. Et Mercedes, je pense, a dit bah, écoutez, regardez bien si toutes les équipes sont en accord avec le principe du règlement qui interdit en fait, qui vise à interdire aux équipes de mettre en place des systèmes qui donneraient des temps de réaction inférieurs à des réactions humaines. Alors Red Bull, en fait, il domine sur le plan des pit-stops depuis 2018, et j'ai regardé, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2015, c'était Ferrari, en 2016, c'était Williams, qui dans l'ensemble, sur l'ensemble de la saison, réalisait les pit-stops les plus réguliers et les plus rapides. Et puis, en 2017, c'était Mercedes. Et Red Bull a travaillé le sujet et ils sont vraiment dominateurs maintenant. Depuis 2018, on voit qu'en 2018, il y avait simplement le meilleur pit stop qui leur avait échappé au profit de Ferrari. Et puis, et après, ils ont établi quand même des records assez spectaculaires. Il y a même un 1,82, je crois, c'était Verstappen au Brésil en 2019. Et on n'est jamais tombé plus bas, mais c'est déjà une limite, les moins 12 secondes dans laquelle se situe régulièrement Red Bull, et qui va être un petit peu maintenant raboté par deux mesures précises, en fait, à partir du Grand Prix de Hongrie, qui sera le dernier Grand Prix avant la pause. Les pistolets pneumatiques seront surveillés de près, puisque aujourd'hui, en fait, on soupçonne Red Bull d'avoir un capteur sur les écrous des voitures, qui indique directement au pistolet si l'écrou est en place. Donc, une fois que les quatre écrous sont en place, le signal est donné au mécanicien de se ranger, et surtout au préposé au lève-vite qui indique en fait au lève-vite de pouvoir descendre directement la voiture, tout à fait, et pouvoir déclencher le feu vert dans la foulée et de redémarrer. Et la FIA maintenant va demander un délai de 0,15 secondes, donc 15 centièmes de seconde, entre le moment où le dernier écrou est fixé sur la voiture et au moment où le lève-vite commence à descendre la voiture et pose la voiture. Et elle va demander deux dixièmes de seconde supplémentaires avant que la voiture ne redémarre, de sorte que les mécaniciens puissent se dégager en fait des espaces autour des roues qui sont un petit peu dangereux, pour qu'on n'ait pas un accident type Bahreïn en 2018 avec Raikkonen qui avait roulé sur un mécanicien. Donc Red Bull est assez mécontent de cette mesure. Ils ont souvent fait la différence là-dessus. Il y a quand même pas mal d'undercuts qui sont à leur actif ces derniers Grands Prix grâce à ça. Ça va peut-être amener un rééquilibrage dans les arrêts au stand.
Voilà, bon, on va voir. Hein. Mais là, sur ce Grand Prix de Styrie, je reprends le résultat du classement. Il y a 35 secondes hein, d'écart à l'arrivée. Ça ne s'est pas joué à quelques dixièmes près hein, ce week-end. On va peut-être évoquer, si tu veux bien, un des aspects que j'avais envie d'évoquer, c'est le travail sur l'usure des pneumatiques, hein, qu'a fait Red Bull, qui a beaucoup progressé dans ce domaine depuis le début de la saison. Et moi, j'y vois aussi le bénéfice de l'arrivée de Sergio Pérez, qui est arrivé en pilote numéro 2 derrière Max Verstappen. Mais je pense qu'il a toujours eu hein, cette qualité, Sergio Pérez, d'arriver à mieux tenir ses pneumatiques en vie. Et j'ai le sentiment, et ça m'est revenu par deux, trois retours, que au lieu finalement d'enfermer Pérez dans un schéma, on a plutôt voulu comprendre comment il faisait, de quoi il avait besoin pour justement garder ses pneumatiques en bonne forme, et que de plus en plus, on retranscrit ça sur la voiture de Verstappen. Verstappen était non seulement le plus rapide, mais celui qui arrivait, en tout cas l'un de ceux qui arrivait à rester le plus longtemps en piste. Hein. Son deuxième relais, il a dit que c'était juste du plaisir.
Oui, alors la Red Bull, en fait, quand même, par rapport à l'année dernière, a beaucoup évolué sur le train arrière. Verstappen s'en plaignait beaucoup, train arrière nerveux. Donc, quelques glisses, usure accélérée des pneumatiques, ça n'est plus le cas cette année. Et Pérez aussi en profite. Et ce qu'on voit aussi, Pérez, c'est qu'il fait du bon boulot sur des stratégies décalées. Et samedi, on a tout de suite vu que Red Bull, en fait, le mettait en pneu tendre parce que c'était un petit peu tendu pour rentrer en Q3 sur ce circuit où on fait le tour en un peu plus d'une minute, et où les écarts donc, sont très, très faibles, et où le dixième de seconde peut se traduire par une perte de 4 ou 5 places sur la grille. Donc, ils l'ont mis en pneu tendre. Alors que Verstappen Hamilton partait en pneu médium, eh bien Checo il a fait le boulot en pneu tendre. Il s'est arrêté un petit peu plus tôt, ça a provoqué une réaction chez Mercedes, mais à l'arrivée il était sur les talons de Bottas à la fin.
Et ce qui est un peu ironique, c'est que on disait que Red Bull avait pris finalement l'ascendant sur les arrêts au stand. Cette quatrième place obtenue par Sergio Pérez se serait sans doute transformée en troisième position en podium s'il n'y avait pas eu ce problème sur la roue arrière gauche du Mexicain qui est resté, j'avais noté, je ne sais plus combien,
4 secondes 8.
8, 4 secondes 8 immobilisé dans son, devant son box. Voilà, c'est l'exception qui confirme la règle et qui a fait descendre du podium le Mexicain. Et sinon, ça aurait été une excellente opération, encore meilleure pour Red Bull. On va, si tu le veux bien, passer au deuxième acte dans les fous du volant aujourd'hui, Stéphane, avec Mercedes, qui en est donc, avec cette deuxième place de Lewis Hamilton et la troisième position de Valtteri Bottas, sur une série de quatre Grands Prix sans victoire. Et c'est donc la première fois depuis la saison d'arrivée de Mercedes en Formule 1 qu'il y a quatre Grands Prix et qu'on n'a pas un des pilotes de Mercedes sur la plus haute marche du podium. Et alors, on a vu juste après l'arrivée du Grand Prix, c'était déjà des thèmes qui avaient été évoqués un petit peu plus tôt, mais dès l'arrivée du Grand Prix, hein, Toto Wolff expliquait que le développement de la Mercedes de cette saison 2021 était gelé, qu'on avait déjà tourné toutes les ressources vers 2022 et le nouveau règlement. Est-ce que c'était pas trop tôt, en fait, pour Mercedes?
Alors, on voit en fait que Mercedes n'a plus de marge, ils ont perdu toute leur avance technique. Quand tu vois quand même qu'Hamilton a failli faire un tête-à-queue parce qu'il est sur le fil du rasoir. Samedi, ils ont tenté une stratégie décalée à trois runs en Q3. C'était un peu la course à l'échalote. On l'a vu doubler dans le trafic pour essayer de faire son dernier tour. C'est-à-dire qu'au mépris en fait de la bonne préparation de ses pneus, ils n'ont plus du tout de marge. Et effectivement, là, c'est une vraie question. Ils ont arrêté le développement alors que chez Red Bull, on va le poursuivre. Et chez Red Bull, on a d'ailleurs dit, dans la bouche d'Helmut Marko, nous, chez Red Bull, on ne va pas faire l'erreur de Bendoulé en 2008. Robert Kubica avait des chances tout à fait raisonnables d'être champion du monde. Eh bien, il y a eu une décision qui tenait au business plan, qui a fait qu'ils sont passés très vite au programme de la voiture 2009, qui correspondait aussi à un virage réglementaire. Mais là, ils ont gâché leur chance. Ils ont dit, nous, chez nous, ça n'arrivera pas. Si on ne prend pas de risque, ce n'est pas amusant. Voilà. Alors, chez Mercedes, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu en train de se mordre les doigts. Il y a Toto Wolff qui a dit ça, le développement, c'est fini. Puis après, il a un petit peu rétro-pédalé en disant, vous allez voir quand même quelques nouveautés dans les prochains Grands Prix. On va regagner un petit peu de temps. Là, franchement, j'en doute un petit peu. Surtout que chez Mercedes, on dit une chose, c'est que la Red Bull, je dirais, si on mettait les mêmes ailerons à l'avant et à l'arrière sur la Mercedes et la Red Bull fonctionnerait un petit peu mieux puisque naturellement, elle génère plus d'appui au niveau de ses formes, de sa carrosserie. Bon, mais chez Mercedes, on n'a pas de marge et je pense qu'effectivement, ils ont shifté un petit peu tôt sur les ressources de 2022. Une échéance qui leur fait peur quand même. Et c'est peut-être dû aussi au fait qu'ils avaient une trop grande confiance en début de saison sur la possibilité de garder leur avantage.
Ouais, je pense qu'ils ont surestimé effectivement le gap technologique qu'ils avaient par rapport à Red Bull qui s'est bien gardé de leur rappeler trop tôt. Pour autant, j'ai une vision un petit peu différente de la tienne. C'est que je pense que quand même, Mercedes, qui est une machine de guerre, a quand même aujourd'hui la possibilité de faire rebasculer des ressources qui travaillaient sur le programme de 2022 pour éventuellement essayer de ressortir 2-3 améliorations. Mais on entend Toto Wolff dire qu'il y a des camions qui sont arrivés de l'équipe Red Bull le jeudi, le vendredi, chargés de pièces neuves et nouvelles pour les Red Bull. J'ai quand même le sentiment qu'il grossit un petit peu le trait parce que ça met un petit peu la pression sur Red Bull en rendant finalement normal le fait que Max Verstappen et Sergio Pérez jouent régulièrement les premiers rôles. Donc déjà, moi, je pense que Mercedes a la possibilité de remettre des ressources et va pouvoir sans doute redonner quelques avancées technologiques, quelques nouveautés à Lewis Hamilton et à Valtteri Bottas. Et j'aimerais bien, si tu veux bien, qu'on mette un petit peu en perspective ce qui est en train de se passer. Parce qu'évidemment, on s'enthousiasme, on sent que Max Verstappen a pris l'ascendant. Mais enfin, je me permets de rappeler à tous ceux qui suivent la Formule 1, il n'y a que 18 points d'écart au championnat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Autrement dit, dimanche, on va négocier le Grand Prix d'Autriche. il se peut très bien que Lewis Hamilton reparte de Spielberg en tête du championnat. Il suffit d'imaginer qu'il y a un problème pour Verstappen et que Lewis Hamilton gagne, et il repartira devant. Au classement des constructeurs, c'est vrai que l'écart est un petit peu plus important, il doit y avoir une quarantaine de points, quelque chose comme ça, mais le week-end dernier, où on explique que Verstappen a survolé les débats, Red Bull a marqué 37 points, Mercedes en a marqué 34. C'est pas non plus être écrasé par la concurrence que de laisser 3 points en route, alors qu'on n'en est pas encore à la moitié du championnat. Tout ça pour dire que, attention, moi j'ai le sentiment que chez Mercedes, on grossit un petit peu le trait et qu'on ne peut pas rester sans réaction et que Mercedes va tenter de renvoyer la balle à Red Bull et que cette saison va être encore plus phénoménale sur la deuxième moitié. Tu vois, pour reprendre une expression qui va... Un exemple, pas une expression. Pour reprendre un exemple qui va nous faire mal, nous Français, allez, on va dire que Red Bull mène 3-1 pour le moment. Il reste un peu plus de 10 minutes de jeu et tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, on peut encore perdre.
On sait de quoi tu parles, Jim, malheureusement. Si Verstappen gagne devant Hamilton, il aura 25 points d'avance. Au championnat, ça fera un break aussi, c'est l'un dans l'autre. Mais on a regardé les écarts, en fait, les retards qu'avait eu Hamilton après 8 Grands Prix par le passé. Ça, tout peut arriver. En fait, en 2014, il avait 29 points de retard sur Rosberg, son coéquipier, il a été champion du monde. En 2016, il en avait 24, il a échoué de très très peu. Et puis en 2021, il en avait 18. Il en a 18, pardon, sur Verstappen. Donc on ne sait pas ce que ça peut faire. C'est un peu plus d'un point en moyenne par Grand Prix. T'imagines ce que c'est. Donc c'est le point du meilleur tour en course, en fait. Mais bon, j'espère que ce n'est pas ce qui fera la différence.
Mais c'est ça qui m'épate, en fait, si tu veux. C'est la surréaction, peut-être, que l'on lit en ce moment, que l'on voit entre ces victoires qui s'enchaînent pour Red Bull. Et derrière, finalement, les écarts sont loin d'être irrémédiables. C'est absolument pas perdu pour Mercedes. Et surtout quand on voit le Grand Prix qu'a fait Bottas. Bottas qui a été pénalisé de 3 places sur la grille parce qu'on a tenté une expérience, d'ailleurs, ce qui ressemble pas trop à Mercedes. Hein, on tente une expérience un peu bizarre pendant les essais. Il perd le contrôle de sa voiture dans les stands, il prend 3 places de pénalité, mais derrière, il remonte sur le podium. Il a fait une course plutôt meilleure que les semaines précédentes. Ça aussi, ça prouve que Bottas n'est pas perdu pour la patrie Mercedes.
Non, alors je reviendrai juste à l'aspect technique. Les motoristes ont un petit problème. Gasly a eu un problème sur son Honda. Mercedes a eu 2 incidents quand même importants ce week-end sur les moteurs clients. C'est Ricciardo qui a perdu 5 places, je crois, en 2 tours. Il n'avait plus de puissance. Et puis Russell a une question de pression pneumatique, de rappel de soupape. Donc là, je dirais attention quand même un petit peu à la fiabilité. Et si tu remarques bien quand même, Gilles, ça fait tout juste un an que Mercedes a fait la transition à la tête de son département moteur et j'ai l'impression que je ne sais pas si on est dans une meilleure configuration qu'auparavant. Et puis, à signaler aussi, la date du 1er juillet 2021, c'est une date importante pour Mercedes. C'est là où James Allison va laisser les clés de la boutique à Mike Elliott, à la direction technique, en prenant un petit peu d'auteur. Là, évidemment, il ne va pas s'en aller, etc. Mais ça veut dire qu'on fait une transition. Là, depuis un an, on est là-dedans chez Mercedes et il y a un peu de flottement. Et chez Red Bull, on est plus agressif. On va jouer sa carte à fond jusqu'au dernier moment. Ça va peut-être payer. On verra ce qu'il en sera en 2022. Wolf a dit, je suis sûr que quand on regardera ça dans 5 ou 10 ans, on se dira que c'était la bonne solution. Mais pour l'instant, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'il pourrait trouver de la marge. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant.
Alors, où on pourrait trouver de la marge éventuellement chez Mercedes, finalement, ce n'est pas chez Mercedes, c'est chez Pirelli. Parce qu'il va y avoir, c'est vendredi, hein, des tests de nouveaux pneus amenés par Pirelli avec des nouvelles carcasses. Évidemment, on a en tête du côté du manufacturier italien ce qui s'est passé à Bakou. On se souvient aussi qu'à Silverstone, les pneus avaient beaucoup souffert et ça avait failli coûter la victoire à Hamilton. Rappelle-toi, il avait fait le dernier tour sur 3 roues. Et finalement, Mercedes se dit que si ces pneus pouvaient mieux correspondre aux qualités de la W12 chez Mercedes plutôt qu'à la Red Bull, ça permettrait peut-être de rééquilibrer un petit peu les débats. Mais on en est là, en fait.
Alors, les pneus quand même de 2021 ont été renforcés. Je crois que c'était 4 kilos sur le set complet de pneus, ce qui avait fait hurler Hamilton. Les pneus sont plus durs, sont plus rigides, plus résistants, et il en était absolument mécontent. Bon, alors si on renforce encore ces pneus-là, je ne sais pas en quel terme il va s'exprimer à Silverstone, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu le brider, je ne sais pas.
Oui, la différence, c'est que quand on a rajouté ces 4 kilos sur les pneus, Lewis Hamilton était champion du monde, donc finalement, il avait tout à perdre, alors que là, il est en difficulté. Donc s'il y a une modification, quelque part, il doit pouvoir se dire, ah, cette fois, s'il y a un changement, ça sera en ma faveur.
Oui, c'est tout à fait, c'est exactement ça. Mais la vraie question encore quand même, c'est que là, depuis quelque temps, Mercedes use beaucoup plus les pneus que la Red Bull.
Ouais, exactement. Et faut... Ça, après, ça c'est des données. Tu vois, pendant que nous, on parle là dans les fous du volant, on peut être sûr et certain, comme en plus, il y a deux grands prix sur le même circuit qui se suivent, on peut être certain que là, en ce moment, les ordinateurs de toutes les équipes, mais particulièrement chez Red Bull et chez Mercedes, puisque c'est de Mercedes dont on parle, les datas doivent être épluchées, retournées dans tous les sens pour essayer de corriger le tir pour le prochain grand prix, hein, puisque la prochaine épreuve, ça sera le Grand Prix d'Autriche. Toujours sur le circuit de Spielberg où on a négocié dimanche dernier le Grand Prix de Styrie. Ben, là aussi, il va falloir que la réaction arrive, même s'il n'y a pas urgence, comme je le disais, hein, 18 points d'écart entre les deux principaux acteurs du championnat, ça laisse encore de quoi espérer pour Lewis Hamilton. Mais c'est surtout une question de dynamique, là, on a le sentiment, hein, qu'il faut entretenir, voire même relancer du côté de chez Toto Wolff.
Tu parlais de Bottas aussi tout à l'heure, Gilles, je ne t'ai pas répondu là-dessus. Effectivement, Pérez a un vrai rôle maintenant chez Red Bull par rapport au Mercedes. Il faut que Bottas aussi joue ce rôle-là par rapport à Verstappen en adoptant des stratégies un petit peu décalées pour gêner les pilotes Red Bull. Autrement, effectivement, Hamilton se sentira un petit peu tout seul.
Ouais, gêner ou simplement entraver, enlever des possibilités. Au pilote Red Bull, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et on a vu, hein, que ça peut être précieux parce que Lewis Hamilton, finalement, a pu, dimanche dernier, s'arrêter, passer un train de pneus pour aller grappiller un petit point, celui du meilleur tour en course. Qui sait si le titre ne se jouera pas à un point au soir du dernier Grand Prix de la saison 2021.
Ça serait un petit peu dommage et je vois un petit peu maintenant que ce point du meilleur tour en course ne plaît pas à tout le monde, n'est pas bien ressenti, je dirais, parce que il pourrait effectivement jouer un rôle important.
On verra ça. Le troisième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, Stéphane, c'est Charles Leclerc. Je disais Charles Leclerc, aspirant Top Gun. On sait bien que c'est un des pilotes les plus doués du plateau, le Monégasque. On l'a vu faire des choses absolument incroyables. Sauf que le premier tour à Spielberg dimanche dernier, il a été un petit peu brouillon, hein, je disais ça, ce contact avec Pierre Gasly dans la ligne droite. Alors c'est un fait de course, mais on voit quand même, hein, sur les images de caméra embarquées qu'il a le volant un petit peu braqué vers la droite à un moment où c'est pas obligé à ce moment-là de venir se rapprocher de son adversaire. Ça a particulièrement coûté à Pierre Gasly qui a carrément dû abandonner et ça a ouvert finalement la voie à Charles Leclerc qui lui a fait une remontée assez exceptionnelle. Hein. Il a dû repasser au stand pour changer son aileron avant, reparti 16e, il termine à la 7e place. Alors, ce n'est pas du tout une agression envers Pierre Gasly parce qu'en plus les deux pilotes sont vraiment bons copains, s'apprécient beaucoup. J'ai plus envie de mettre ça sur le compte d'une étourderie du premier tour.
Négligence, je dirais, Gilles. Moi, je trouve vraiment qu'il aurait pu être sanctionné là-dessus parce que. Il s'approche, il est derrière, il doit se mettre à l'écart de l'AlphaTauri. Il n'y a pas à chipoter, quoi. Il faut qu'il comprenne ça. Et il essaie quand même un petit peu de se rapprocher, de le titiller. Pourquoi faire, je ne sais même pas. Et là, au bout du compte, un contact avec les ailerons, ces ailerons qui sont trop larges, c'est une bêtise qui a été faite. Quand ils ont été de nouveau élargis, ça, c'est une lame de rasoir sur un pneu et puis ça explose tout de suite. Course gâchée pour Gasly qui était parti pour quelque chose de bien, un top 5 peut-être.
Moi, j'ai envie d'être quand même plutôt compréhensif envers Charles Leclerc parce que combien de fois on a vu Max Verstappen être trop agressif, hein, on l'a même accusé parfois d'être dangereux. Et finalement, on retrouve un phénomène là, c'est-à-dire voilà, un jeune pilote talentueux qui a beaucoup de pression, parce que la Scuderia, ça vous met quand même beaucoup de pression sur les épaules. Et en même temps, on en a parlé à plusieurs reprises, on a le sentiment que Max Verstappen a franchi un cap depuis, on va dire, la saison dernière, et que c'est ce qui manque aujourd'hui à Charles Leclerc, garder une espèce de hauteur de vue dans les moments clés, et le premier tour en fait partie. Il est un peu à mi-chemin là, entre les pilotes du reste du peloton et puis les fameux Top Gun, les Lewis Hamilton et les Max Verstappen.
Verstappen a fait polémique sur ses manœuvres de dépassement qui étaient agressives, mais sans contact. Ça, c'est important. Rarement, il a touché une autre voiture. Je dirais, ce n'est pas de façon délibérée, mais avec une sorte de négligence. Donc, c'est pour ça qu'il est... Il n'avait pas trop mauvaise presse aux yeux des fans et du public. On se dit effectivement, il se permet des choses qui ne sont pas acceptables. Mais quand j'ai vu Leclerc embarquer dans cette remontée, alors je crois que c'était de la 18e place, en fait, parce qu'il y avait un abandon, il y avait Latifi derrière lui, je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Parce que, tu l'as dit, il y avait quelque chose d'un petit peu brouillon dans ce qu'il avait fait au début. Avec le recul, je me souvenais de certaines de ces remontées, ou en tous les cas des départs au cœur du peloton, avec le couteau entre les dents, et ça s'était mal passé quand même chez Ferrari. J'ai noté en 2019, à Monaco, on s'en souvient tous, il essaie de faire des dépassements à la rascasse sur Grosjean et Hülkenberg, il tape, il repart, il crève, enfin ça devient du n'importe quoi, il abandonne. Au Brésil, il fait aussi une belle remontée, puis il y a une part de provocation dans le dépassement qu'il fait, c'est là, c'est un petit peu, c'est qu'il en fait un peu trop. Et puis, ça se termine par un accrochage, pour moi, qui n'était pas de sa responsabilité, mais il avait provoqué un petit peu Vettel. Et puis, souviens-toi, surtout, Spielberg, l'année dernière. Troisième virage, je crois, boum, les deux Ferrari s'accrochent, Vettel en tête à queue, double abandon. Bon, et là, je trouve quand même que c'était sa remontée la plus aboutie, même si ça a été un petit peu chaud, même s'il a fait quand même quelques queues de poisson à Alonso en particulier, il y a un contact. On s'est dit quand même, il y retourne là. Bon, il avait plus rien à perdre. Avec Raikkonen aussi, c'est passé, mais à un millimètre. Bon, c'était tendu avec Ocon, mais ça, c'était une manœuvre de défense du français. Ça a été aussi un petit peu chaud avec Tsunoda. Bon. Je dirais que là, il est encore dans le Verstappen des années 2018-2019. Verstappen a beaucoup évolué en 2019 et surtout 2020, en comprenant un petit peu que ça ne servait à rien d'aller chercher un petit peu la bagarre pour la bagarre, et spécialement cette année, on le voit bien, maintenant il est safe, vraiment, et il a une certaine modération. Et le bilan de tout ça, c'est qu'on a dit assez souvent, Gilles, cette année, que Verstappen avait finalement rejoint la classe dans laquelle pilotait Lewis Hamilton, et ils ont laissé un petit peu Leclerc en dessous, un petit peu dans sa classe à part. C'est sûr, on sait que Leclerc sera champion du monde, et pas qu'une fois, et on l'espère, mais pour l'instant c'est vrai qu'il est encore dans une phase où il ne pense pas au championnat.
Alors, il ne pense pas au championnat aussi parce que pour le moment, évidemment, la voiture ne peut pas lui permettre d'imaginer le championnat. C'est peut-être aussi ce qui influence ses prises de risque dans des moments où il faut consentir à une prise de risque. Les phases de départ, de relance, c'est des moments où on peut gagner. Où on peut gagner des places. En même temps, on va élargir un petit peu, si tu veux bien, le spectre, en élargissant aussi à Carlos Sainz et à la Scuderia Ferrari, parce que Carlos Sainz a lui aussi fait une belle course. Hein, il était 12e sur la grille, il termine à la 6e place, et en disant qu'il avait une voiture qui était capable de suivre le rythme des Red Bull. Et chez Mercedes, chez Ferrari, pardon, on ne sait pas expliquer pourquoi. On ne sait pas. Pourquoi ça ne marchait pas au Castellet. On ne sait pas expliquer pourquoi ça a mieux marché du côté de Spielberg. Ça doit être un petit peu déstabilisant, et pour les pilotes et pour l'équipe aussi.
C'est la dimension qui manque un petit peu à Leclerc. Gilles, je pense que tu es d'accord là-dessus. Cette dimension technique où avoir une certaine stabilité dans le résultat, Leclerc est encore en mode on-off. À Portimao aussi, ils avaient du grainage, ils ne savaient pas d'où ça sortait avec les deux petites deux pneus. Ils n'avaient pas compris pourquoi. Hein. Ils avaient dit qu'il va falloir qu'on étudie la question. Ça s'est reproduit au Castellet. Et puis là, ça va bien à Spielberg. Et puis Leclerc, qui s'avouait un peu perdu au Castellet, dit honnêtement, en fait, on ne sait pas pourquoi. Et il va falloir qu'on garde, qu'on comprenne, parce qu'on n'a toujours pas compris. Ça veut dire que Ferrari fait du yo-yo. Et pour moi, Un grand leader, c'est quelqu'un qui met la voiture dans le top 5 sur tous les circuits. Si c'est une voiture qui vaut le top 5 et pas mieux derrière les deux Red Bull et les deux Mercedes, et c'est pas encore le cas pour l'instant. Et c'est ça qui manque vraiment à Leclerc. Et quand il aura franchi ce cap, on pourra parler de lui un petit peu autrement, même si Hamilton est passé mais complètement à côté de son sujet, par exemple à Monaco cette année.
Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, ça va dans les deux sens. Il faut que l'équipe puisse donner des informations aussi au pilote en lui disant, voilà, il y a eu du grainage sur les pneus parce que ceci, parce que cela, éventuellement parce que il ne faut peut-être pas avoir telle attitude sur le pneu à ce moment-là. Et là, pour l'instant, on a le sentiment en fait que chacun cherche dans son coin, dans cette Scuderia, et que bah, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Bon, alléluia, on espère que ça ira bien la semaine prochaine.
J'en doute.
Je sais pas, voilà, on dit deux Ave Maria et puis on lance les voitures sur la piste.
Mattia Binotto, qui est le boss de l'équipe, alors qui a laissé les fonctions de directeur technique, mais c'est lui qui surveille tout ça, qui suit tout ça, il a toujours dit la base quand même de cette voiture 2021, mécaniquement, c'est celle aussi de 2022, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout révolutionner. Il va y avoir un grand chambardement au niveau de l'aéro, mais les voitures vont rester dans la même lignée, je dirais, mécanique de l'an prochain. Alors, c'est ça qui est un petit peu embêtant chez Ferrari, de finir un petit peu loin parfois, de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Et puis, on va peut-être le vérifier sur le même circuit ce week-end, comment ça fonctionne, parce que Pirelli arrive avec des pneus qui sont un cran plus tendres. Et ça, c'est un problème parce que Sainz a dit le week-end dernier à Spielberg, eh bien, en ce moment, plus les pneus sont durs, mieux c'est pour nous. Donc, je ne m'attends pas vraiment à la même prestation de Ferrari ce week-end. S'ils le font, tant mieux. Hein. Vraiment, ça sera formidable. Et on voit aussi que Sainz et Leclerc ont fait à peu près le même résultat sur des stratégies opposées. Leclerc a vite passé les durs pour finir en médium et inversement pour Sainz. Donc, on essaie plein de choses, on essaie des solutions, on expérimente, mais pour l'instant, là, ils n'ont pas mis le doigt vraiment sur ce qui les gênait. C'est un petit peu embêtant quand même, il reste 15 Grands Prix, la voiture ne va plus évoluer, là, c'est fini, c'est terminé. Donc, ils vont faire avec ce qu'ils ont et ça va être encore fluctuant pour les prochaines courses, je le redoute.
Voilà. Alors, ce que tu expliquais sur les pneumatiques, c'est que vu qu'on reste sur le même circuit, et là, il n'y a pas de variation possible du tracé, enfin, c'est possible, mais au standard de la Formule 1, ça ne serait pas très, très intéressant. On l'a choisi pour rajouter de l'intérêt à cette deuxième épreuve sur le même circuit, de changer un petit peu la gamme des pneus, et on va décaler en fait d'un cran. C'est-à-dire que les pneus qui étaient tendres, les pneus rouges ce week-end, vont devenir... donc les médiums, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et donc, on va aller chercher de nouveaux pneus tendres qui étaient plus tendres que ceux que les tendres de dimanche dernier. Je ne sais pas si vous avez compris.
Il y aura un super tendre dans la gamme dimanche.
C'est ça. Et voilà. Ça passe pas trop, en fait, sur la Ferrari.
Alors, on va bien le voir, mais effectivement, pour l'instant, elle est... Alors, c'est un peu bizarre parce que les saisons passées, on se souvenait qu'elle était, la voiture était accro aux pneus tendres. Ça, c'était un petit peu curieux. Il y a eu la parenthèse de Monaco qui était assez incroyable. Là aussi, pas très compréhensible. En tous les cas, pas très attendu. Et puis là, on est passé à l'effet inverse. Je dirais quand même que Sainz, c'est un bon numéro 2, je pense. Mais je doute un petit peu quand même de son apport. Lui aussi, il manque un petit peu de régularité en qualification pour pouvoir corréler ses datas avec celles de Leclerc, et il fait aussi un petit peu trop d'erreurs, je pense, pour qu'ils s'y retrouvent, même s'ils disent qu'ils travaillent très très bien ensemble et qu'ils échangent beaucoup d'informations. Ça, c'est l'essentiel, vraiment.
On se souvient, on en avait parlé, hein, du capital d'expérience et de succès des pilotes Ferrari de cette saison comparé à tous ceux des saisons précédentes. Et effectivement, là, on a une paire qui est très jeune, beaucoup moins capée, et ça doit sans doute aussi peser sur le développement technique de Ferrari. Alors pour cette saison, maintenant il n'y en aura plus. Mais clairement, on va aborder ce deuxième week-end à Spielberg quand même avec un certain sentiment d'inconnu du côté de la Scuderia, ce qui est assez paradoxal puisque ça sera le deuxième Grand Prix au même endroit.
Alors, on a aussi, pour élargir un petit peu, comme tu pourrais le dire, Gilles, la question, l'année dernière, on n'a pas eu le même résultat de Spielberg 1 à Spielberg 2, pôle main différent, vainqueur différent, donc... on va peut-être avoir des cartes un petit peu rebattues avec justement cette histoire de pneumatique. Mais Leclerc l'a dit, il s'en mordait les doigts. Après la course, un top 5 était largement à sa portée.
Voilà. Exactement. Hein. Faudra épurer ce premier tour pour Charles Leclerc, qui en général se rate rarement. Deux fois de suite, on peut lui faire confiance. On a fait le tour, Stéphane. Si, peut-être donner aussi les informations basiques de ce Grand Prix d'Autriche. Hein. On était au Grand Prix de Styrie la semaine dernière, on sera au Grand Prix d'Autriche ce dimanche. Mêmes horaires, 11h30 pour la première séance d'essais libres vendredi, 15h pour la qualif samedi et 15h évidemment pour la course dimanche. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner, soyez plutôt sympa, donnez-nous 5 étoiles. Et puis à vous abonner aussi, comme ça la prochaine fois qu'on échangera avec Stéphane, le nouveau numéro des Fous du Volant arrivera directement sur votre smartphone. Je crois qu'on a été complet. Il nous tarde franchement de voir ce Grand Prix d'Autriche toujours à Spielberg. On sera prêt et évidemment on va suivre toutes les dernières infos sur le site eurosport.fr avec Stéphane qui sera sur le pont. Encore une fois, il y a eu beaucoup de choses à dire le week-end dernier. Je suis assez convaincu qu'il y en aura encore beaucoup ce week-end. Stéphane, il ne nous reste plus qu'à en venir à notre conclusion désormais traditionnelle dans les Fous du Volant. À la semaine prochaine et d'ici là, on le coupe contact. Le contact. On va y arriver un jour.
Salut Gilles.
Salut.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.